Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Avant le match de l'équipe de France de ce soir et le retour au championnat pour Rodez ce week-end avec un déplacement à Troyes, nouvel épisode du Club Saint-Heur avec Jean-Charles Virlogeux. Bonsoir.
Bonsoir.
Deux invités pour le prix d'un dans le studio Totem. Thomas Frette, préparateur physique du RAF, bonsoir.
Bonsoir.
Aymeric Darbelay, entraîneur adjoint du RAF, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation commune. Nous allons revenir évidemment durant une demi-heure sur vos rôles respectifs au sein de l'équipe Ligue 2 du Rodez Aveyron Football. Mais avant de s'y plonger en détail, est-ce que cette période de trêve, elle est considérée pour vous comme une période de vacances ou absolument pas, Thomas ?
Non, il y a eu deux objectifs, c'était de récupérer et après de bien bosser pour attaquer ce sprint final. Donc vacances, non ?
Pas de vacances. Aymeric, pareil, pas de vacances pour vous durant cette période internationale ?
Non, même un peu de frustration chez moi.
Pourquoi ?
Parce que les entraînements sont un peu moins qualitatif. Voilà, on perd du monde, il y a aussi des joueurs qui ont besoin de souffler. Et puis il n'y a pas la compète. Donc c'est totalement différent par rapport à ce qu'on peut vivre dans les semaines habituelles.
Donc il n'y a pas la carotte de la fin de semaine en gros, c'est ça ?
Et c'est un peu ça, ouais.
Bon, il n'y avait pas eu en tout cas de break international depuis le début de l'année 2024. Est-ce que c'est quand même précieux d'avoir des breaks pour pouvoir récupérer, pour pouvoir parler d'autre chose que de football ou travailler d'autre chose que le football ?
Moi, je trouve que c'est dommage, là, parce qu'on était sur une très bonne série. Donc, ça coupe toujours un peu la série, sachant qu'il y a quelques internationaux qui sont partis. Donc, comme dit Aymeric, c'est une semaine un peu bizarre.
Après, donc, quand on fait partie du staff, ces périodes de trêve internationale, on les aime pas trop, quoi.
Ça dépend à quel moment elles arrivent.
Ça dépend à quel moment, ça dépend de ton groupe, ça dépend aussi de quel objectif tu as pour la fin de saison. Là c'est dommage parce que nous je nous trouvais bien, on est dans une bonne série, on était bien sur nos valeurs, donc j'aurais bien aimé continuer avec deux matchs de plus pour surfer sur ces résultats. Après voilà, on a essayé de faire du mieux possible pendant la trêve. Moi je préfère voir le verre à moitié plein, donc je trouve qu'on a bien bossé, qu'on a fait de bonnes choses, on a rempli tous nos critères qu'on avait cochés avant cette trêve. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à repartir déjà pour ce week-end et puis ainsi de suite.
Est-ce que ça permet de travailler très différemment de d'habitude, techniquement, tactiquement, Aymeric ?
Ce qui est différent, c'est que là, on a fait monter des jeunes. Donc ça permet aussi de les voir.
Parce que le groupe était un peu ailleurs.
Ouais,
ça permet
entre les internationaux, ceux qui étaient mis au repos sur certaines séances, on a fait monter du monde. Et après, on ne travaille pas différemment. La qualité baisse un petit peu, donc les exercices sont différents, mais la volonté de ce qu'on veut faire, reste la même. Voilà. Thomas a été un colloque de prépa physique la semaine dernière, et ce qu'il en ressortait, c'est que cette trêve-là, pour tout le monde, ça allait être compliqué à gérer. Parce que les organismes sont quand même un peu fatigués, c'est long, on rentre dans le printemps, il y a beaucoup de choses qui aussi rentrent en ligne de compte. Nous, ça nous a permis d'avoir une réflexion aussi sur la saison prochaine, sur comment on voulait travailler, comment on se projette déjà sur le stage. Ça nous permet de...
Ça, c'est entre vous, c'est pas forcément avec les joueurs.
Ouais, mais...
Oui.
Voilà. Nous, cet après-midi, on n'était pas comme les joueurs au repos, on était quand même en train de travailler. Donc ça fait partie du travail. Mmh. Et on a pu au moins avoir un peu plus de temps pour s'y consacrer.
Est-ce que le fait d'être cinquième, d'être avec, au moment où on se parle, 43 points au compteur, permet de travailler en amont sur ces projets-là ?
Non.
Quoi qu'il en soit, la situation du club, là, à ce moment-là de l'année, il faut travailler sur l'avenir.
Peut-être que Thomas, lui, a encore toutes les dates, mais l'année dernière, on savait déjà comment on allait faire. Voilà, c'est plus une histoire aujourd'hui...
D'anticipation, il faut absolument anticiper.
Ouais. D'être prêt pour pas qu'on soit surpris, que les choses soient carrées. Il a mis deux scénarios qu'il nous a encore donné tout à l'heure, notamment sur la semaine de stage. Voilà, après, ça, c'est Didier qui tranchera.
Bon, scénario Ligue 1, scénario Ligue 2.
Oui, bien sûr, c'est ça.
Quand je disais travailler très différemment, c'est on ne se dit pas, tiens, il y a un truc qu'on doit bosser, on n'a jamais le temps de le bosser, on est trop le nez dans le guidon, cet aspect technique ou tactique. Là, on a un peu de temps, on se pose, on le creuse. Non, c'est... Il n'y a pas tant de différence que ça, finalement, entre une semaine classique d'avant-match et...
On est censé avoir travaillé tout ce qu'on voulait. Donc on est plus maintenant sur sur de la répétition. Voilà. Et on est en réflexion sur comment on va s'améliorer déjà l'an prochain. Quel point il nous manque de travail et comment on va faire pour le développer. Et après, Thomas est sur la même chose au niveau athlétique. Comment il peut faire progresser encore plus ses joueurs, quoi.
Justement, on est à l'aube de la 30e journée. Physiquement, est-ce qu'on travaille différemment parce qu'on arrive dans les dernières rencontres de l'année, de la saison? Est-ce que, justement, là, c'est plus de la récupération pure et dure pour les joueurs ou est-ce qu'il y a quand même une part, évidemment, de physique à préparer à l'occasion de cette trêve?
Non, parce que moi, je pars du principe que si on veut avoir des résultats, il faut bosser. D'affûter, c'est le terme un peu que tous les prépas parlent pour, on va dire, régénérer, préparer les matchs de fin de saison. Moi, j'aime pas.
Pourquoi ?
Parce que pour moi, c'est trop tôt pour le faire. Parce que ton corps s'habitue tellement vite que si tu commences à baisser la charge d'entraînement à 9 journées de la fin, je vois pas comment tu peux faire sur les 5 derniers matchs pour continuer à faire des matchs intenses. Donc, on va continuer de bosser. Là, pour un trêve, ça nous a permis de faire un rappel de force et un rappel de PMA. Donc, c'était des bonnes choses.
PMA, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est puissance maximale aérobie, c'est ouais. Tout ce qui est répétition d'efforts intenses, travailler sur tout ça. Et la force, c'était plus l'explosivité, du travail un peu de puissance max. Et moi, mon but, c'est que les mecs soient frais et progressent jusqu'au dernier match. Donc, le but, ce sera de bosser. On va encore doubler sur les semaines à venir. Et on verra sur les 3 derniers matchs si vraiment on veut faire de la fraîcheur. Mais avant, ce serait une erreur de trop baisser la charge d'entraînement.
On parlait de l'intégration des jeunes justement dans ces périodes de trêve internationale. Est-ce que ça permet justement aux jeunes de voir l'écart qu'il y a avec le groupe Ligue 2 et finalement le manque à combler pour qu'ils arrivent à ce niveau-là?
Ouais, même si cette année, j'ai la chance d'avoir aussi Aurélien Daribo en adjoint sur la Ligue 2, qui lui est référent de la prépa sur la R1. Donc c'est un travail qu'il fait déjà quotidiennement en montrant aux jeunes l'écart qu'il y a entre la réserve et l'équipe pro. Donc oui, les jeunes, ça leur permet sur le terrain de voir l'écart, mais tout est déjà affiché. Ils travaillent justement, on rétravaille pour ça, pour combler ce retard.
La R1 qui est bien partie pour l'instant pour jouer l'accession en National 3, l'équipe de Florèche qui est première de son groupe. On croise les doigts pour évidemment ce groupe R1 qui était descendu l'année dernière.
Je me tourne vers Aymeric. On sait que la façon dont votre binôme avec Didier Santini travaille a évolué cette saison. Racontez-nous un peu qui fait quoi entre vous deux lors d'un entraînement classique.
On m'a donné la charge de l'entraînement. Enfin, c'est Didier qui me l'a donné. Et donc, en fait, je conçois et j'anime les séances. C'est en accord avec le projet qu'il veut mettre en place, les principes qu'il veut avoir. Et lui a plus un rôle sur l'individualisation auprès de joueurs ou sur des binômes. Voilà, sur une séance, il va se consacrer à un joueur, deux joueurs ou un binôme de joueurs. Et il va être derrière eux et puis... Et puis, il va s'occuper d'eux toute la séance. Dès qu'on a des pauses, c'est lui qui vient corriger ce qu'il a vu, ce qui lui a plu ou pas. Voilà. Et après, on a des rôles qui sont bien répartis. Il savait ce qu'il voulait faire dès son arrivée. Et là, il l'a mis en place. Ouais.
Et vous êtes en adéquation avec ça?
De ça?
Sur ces rôles-là, établis, préétablis?
Moi, j'y retrouve mon compte. C'est incroyable pour moi. On me donne la chance d'entraîner. Donc de faire avec... Je fais ce que j'ai envie de faire, en fait. Donc c'est une confiance énorme qu'on me donne. Et ce qu'il fait, Didier, pour l'instant, c'est pas le truc où je me sens le plus en harmonie pour le faire. Il y a des trucs... Pour l'instant, ça me correspond pas, ce qu'il fait.
Voilà. Ouais, donc c'est très bien que ça soit pas vous qui le fassiez.
Et... Non, parce que... Disons qu'il a une vision différente. Voilà. On s'est entraîné ce matin, on a fait réunion ce midi ensemble. On s'est déjà appelé une fois tout à l'heure et on va se rappeler ce soir. Voilà, on s'appelle, même hors entraînement, on s'appelle 2-3 fois par jour.
Donc travail différent et complémentaire.
Oui, parce qu'il voit les choses d'une manière différente, il a un œil différent.
Et c'est le but d'ailleurs. C'est le but qu'il puisse avoir un œil différent aussi sur le travail. Il parlait de prendre du recul, de la hauteur. C'est un peu ça.
Oui, oui. Enfin, du recul et à hauteur, ça veut dire qu'il ne ferait pas grand-chose. Donc, ce n'est pas réellement le cas. Voilà. Il est présent. Il a un rôle qui est bien précis et défini. Mais quand on s'appelle généralement, enfin le vendredi, le dimanche par exemple, on s'appelle pour parler de l'équipe adverse. Et lui voit les matchs d'une
Alors,
manière
l'équipe adverse
différente.
À venir ou
ouais, à venir.
Ouais. Ah oui, à anticipation venir. Encore.
Et il voit des choses que j'ai pas vues comme lui. Donc ça nous permet de confronter beaucoup de choses. Ça c'est très intéressant. Voilà. Les corrections qu'il va apporter aux joueurs, on est assez en adéquation là-dessus. Mais de la manière dont lui va me les présenter, c'est pas, j'ai pas le même prisme, on dit ça. Voilà. Et donc ça c'est très enrichissant. En tout cas pour moi c'est très enrichissant.
Est-ce que cette nouvelle organisation, ça a changé la nature, l'atmosphère des entraînements, vous diriez ?
Ça, j'en sais rien.
Au niveau du ressenti, par exemple, avec les joueurs, on sait que ce n'est pas la même approche que l'on peut avoir avec l'entraîneur principal et l'entraîneur adjoint. Est-ce que ça a pu changer quelque chose au niveau de l'affect ?
En fait, ils ont été mis au courant dès le début que ça allait se passer comme ça. Donc, ils savent très bien qui fait quoi. Voilà. Moi, je fais les entraînements. C'est lui qui fait toutes les équipes des entraînements. Et c'est lui qui fait les choix. Donc, à l'arrière, pour moi, comme pour Thomas, on a un rôle facile. Voilà. Nous, on n'est pas... on n'entre pas, enfin, on n'entre pas dans les choix. On peut donner notre avis, mais ce n'est pas nous qui tranchons. Voilà. C'est pour ça qu'il est numéro un. C'est lui qui prend... qui décide à la fin.
Oui. Le fait que du coup, ça soit... On dit souvent, effectivement, l'entraîneur adjoint, il y a un côté un peu plus camarade avec les joueurs. Est-ce que c'est pour ça, ça change peut-être l'esprit de l'entraînement ? On a moins l'impression d'avoir le chef sur le dos ou en tout cas juste derrière soi ?
Je pense que je l'étais plus l'an passé. Voilà, dans ce type de relation. Parce que cette année, malgré tout, vu que je dois diriger les séances, il faut aussi que j'ai un rôle de temps en temps un peu plus...
Père Fouettard, ou en tout cas
Père
un peu
Fouettard,
plus strict.
J'en sais rien, mais voilà. Même si ce n'est pas tous les jours facile, voilà, il faut... De temps en temps, ouais, il faut un peu lever la voix.
Ouais. Ouais, il faut montrer un peu de poigne de temps en temps pour les séances, pour qu'elles se passent bien.
Oui, et puis c'est, ça fait partie de mon rôle, et il faut aussi qu'on laisse Didier dans ce qu'il a à faire.
Alors, vous disiez qu'effectivement, ce n'était pas... qu'un rôle d'observateur qu'avait Didier Santini. C'est intéressant d'avoir cette précision. Il nous a expliqué que, notamment quand même avec ce nouveau rôle, ça lui permettait de davantage voir, de mieux voir, par exemple, les positions du corps de certains joueurs. Quelque chose qu'apparemment, on ne voit pas ou on voit moins bien quand on est vraiment au milieu des joueurs pendant l'entraînement.
Mais en fait, ça, la nouvelle répartition, puisque Thomas parlait d'Aurélien, qui est venu avec lui. On a Guillaume Miquel aussi qui est venu comme deuxième adjoint.
L'entraîneur des 19 nationaux.
Ouais. Et là, depuis un mois à peu près, on a Florège qui vient aussi aux séances. Ça nous permet tous d'être plus présents et précis, normalement, dans notre rôle. C'est-à-dire que Thomas va vraiment se concentrer sur tout ce qui va être donné athlétique pendant l'entraînement. Et moi, sur l'entraînement lui-même. Ce que j'espère voir, ce que je veux travailler... Et l'aspect correction du corps, ouais, c'est un truc qui tient beaucoup à Didier. Voilà. Et je pense qu'on le corrige peut-être pas assez. Parce qu'on part du principe que les pros sont censés...
Ah oui. Avoir les bons comportements.
Tout savoir là-dessus. Ah,
voilà. Ouais. Ou du moins avoir le bon comportement.
Est-ce que justement le fait de renforcer un petit peu ce staff, ça permet le développement du club vers encore plus de professionnalisme? Justement, on a souvent pointé du doigt le manque de personnel autour de l'environnement de la Ligue 2. Est-ce que ça permet justement d'aller plus au fond des choses, Thomas, vous diriez ça?
Ouais, ça permet vraiment d'être concentré sur son rôle, d'être plus précis. Moi, je prends sur ma partie. Quand Auré est avec moi, c'est beaucoup plus facile. J'ai les joueurs qui vont jouer le week-end à gérer, avec la charge d'entraînement, avec les GPS, avec aussi tout ce qu'on peut faire athlétiquement dans la séance. Et Auré va, lui, s'occuper des joueurs sur le côté, qui sont en dehors de la séance parce qu'on a un nombre qui est trop important, ou des blessés. Donc ça va permettre vraiment de se répartir les tâches et d'être plus précis et d'augmenter aussi la part du travail individuel de chaque joueur.
Ça manquait, ça, par exemple, lors des saisons précédentes ?
Forcément, quand tu es tout seul avec 25 joueurs, tu ne peux pas être précis, tu ne peux pas tout faire avant, pendant et après avec eux, parce qu'à un moment donné, tu tu exploses et tu as trop de choses à faire et tu n'es pas précis.
C'est un peu finalement le même cas qu'une maîtresse face à 25 enfants, elle est moins présente s'il y en a 25 que s'il y en a 15.
C'est exactement ça, okay. Surtout que maintenant dans le football, on parle beaucoup d'individualisation, de choses comme ça. Et c'est utopique tout seul de dire qu'on peut faire du bon travail avec 25 mecs.
Alors la dimension physique a une part importante dans les séances d'entraînement et peut-être même dans le style de jeu de Rodez hein, aussi. Ça a toujours été le cas, c'est encore le cas aujourd'hui, même si on a le sentiment que ça joue davantage au ballon. On sait que certains coachs, d'ailleurs, partent du principe qu'il faut quasiment toujours s'entraîner avec le ballon. Là, on imagine que ce n'est pas du tout le cas, donc.
Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mmh. Mais comme j'ai dit, pour moi, mon objectif pour que les joueurs soient en forme le week-end, ça se passe par deux choses. Du travail physique, on va dire, général. Ce qui se passe avant la séance. Ce qui se passe pendant la séance sur des fois des ateliers de force ou de PMA, comme j'ai expliqué. Et après la séance, sur du travail supplémentaire ou de récupération. Mais ça passe aussi par l'entraînement intégré. Surtout les Espagnols aiment bien dire ça. Où on va essayer de quantifier tous les jeux, tout ce que fait Darbol pour que ça rentre dans ce qu'on fait le week-end par rapport à nos données de match. Parce que le but, c'est de s'entraîner plus fort que le rythme de match.
D'accord, donc en fait, la maxime, on joue comme on s'entraîne, donc il faut s'entraîner encore plus fort que quand on va jouer le week-end.
C'est exactement ça, c'est préparer son corps à plus fort que ce qu'on fait le week-end.
À la répétition d'efforts. Donc encore plus soutenu lors des séances d'entraînement que lors des matchs.
C'est ça, voilà. Sur des temps forcément beaucoup plus courts. Mais le but, c'est ça. C'est de choquer un peu son corps pour qu'il soit prêt le week-end. Et ça, avec ballon, c'est ce qui nous intéresse, quoi.
Et ça, c'est propre à Rodez ou c'est quelque chose que tout le monde fait ?
On n'a rien inventé. Hein. Après, il y a deux, trois, on va dire, théories sur l'entraînement.
Parce qu'on sait que Rodez, c'est une équipe qui court beaucoup. C'est quelque chose qui ressort souvent dans les interviews d'après-match auprès des coachs adverses. Peut-être que vous avez aussi votre part de responsabilité là-dedans, on a envie de dire.
Après ça, sur cet aspect-là, c'est une responsabilité de tout le club. Ça veut dire qu'à la base, il y a un coach qui a un projet de jeu. Moi, mon but, c'est d'adapter et de préparer les joueurs à son projet de jeu. Je sais que Didier adore des joueurs qui répètent beaucoup les efforts, qui aillent très vite vers l'avant. Donc moi, mon rôle, c'est que chaque joueur puisse faire ça le week-end et sur tout le long de la saison, quoi.
C'est une vision commune ? Vous partagez la vision du coach Didier Santini par rapport à ça ?
Alors honnêtement, je vais vous dire que ma vision des choses, c'est pas qu'on s'en fout, mais moi je suis un soldat du coach et du club, et c'est le coach, le boss, c'est lui qui détermine la vision, et après moi j'exécute ce qu'il veut faire.
Il est le commandant, et vous êtes finalement le dirigeant de l'armée du RAF, quoi, c'est ça ?
C'est un peu ça, ouais.
Sachant qu'il s'en rapproche beaucoup. Pour des idées de Didier.
D'accord.
Enfin, disons qu'ils ont les mêmes idées.
Même si, dans l'absolu, on s'en fout, c'est des idées qui se rejoignent. C'est ça.
Ça permet aussi
c'est
de mieux travailler.
C'est toujours mieux d'être convaincu. C'est
plus facile. Ouais. Ouais.
Pour se faire une idée, du coup, sur une séance d'entraînement, travailler avec le ballon, c'est trois quarts du temps
Beaucoup moins que ça, en fait. Ça dépend déjà des séances, ça dépend du moment de l'année. Mais ça dépend si on compte avant, après la séance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont effectuées aussi en salle, avant et après la séance. Et justement, je pense que c'est un des point sur lequel on doit s'améliorer pour les années à venir, c'est d'être encore plus performant sur ces moments-là.
Moments en salle ?
Sur les moments avant, pendant,
avant les séances.
Et après, pendant les séances, que c'est très très important, soit pour préparer le corps, pour éviter les blessures, pour développer les mecs sur des aspects qu'on ne peut pas faire sur le terrain. Mais une fois qu'on est sur le terrain, moi je pars du principe que les mecs, ils jouent au foot, et qu'il faut au minimum passer, on va dire, 80% du temps avec ballon.
Une fois sur la pelouse ?
Ouais, une fois sur la pelouse. Et après, mon objectif, comment je vois la préparation physique, et c'est validé par Didier, c'est on va créer des objectifs de chaque séance. Par exemple, ça va être, je sais pas, je prends au hasard pour Andreas Utondji, 25 sprints le mercredi, parce qu'en match, il fait tant, donc il va faire ça. Si à la fin de la séance, il est qu'à 22, donc là, c'est à moi de lui proposer un travail athlétique pour compenser ces valeurs-là.
À la fin de la séance ?
Exactement, ouais.
D'accord. Pour qu'il soit en adéquation avec le projet, on s'entraîne plus fort que ce que l'on va répéter en match.
C'est exactement ça.
Ok. Voilà, plus on simple, part de c'est ce pas principe. De lui faire trois sprints de plus, non ?
Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est pas en faire que trois, mais s'en faire un peu plus. Comme ça, le joueur, à force d'en faire plus, à un moment, il va se dire « j'en ai marre, la prochaine séance, je vais les faire ces sprints pendant le jeu. » Et comme ça,
j'aurais pas besoin de revenir après.
C'est ça, parce que les joueurs, généralement, ils aiment pas quand je les appelle en fin de séance en disant avec l'ordinateur « toi, faut que tu reviennes. » Donc, mon but, c'est d'être même plus dur avec eux. L'idéal, c'est que tous les joueurs, à la fin de la séance, aient atteint leurs objectifs et que 5, 6, 7 joueurs me disent « Nous, on veut encore en faire plus ». Là, ce serait vraiment le Graal pour...
Bon, on parlait du rôle du père Fouettard, finalement, attribué par Jean-Charles à Aymeric Darbelay, mais c'est peut-être vous, finalement.
Ouais, c'est ça.
C'est peut-être vous, parce que quand on vient à la fin de l'entraînement vous chercher en disant « Non, il faut que tu continues l'entraînement », ça ne doit pas faire super plaisir à tous les joueurs.
Ouais, sachant que je pense qu'Aymeric est un peu meilleur sur ce rôle-là que moi, mais... Je suis un peu trop bienveillant avec les joueurs, mais...
Trop gentil ?
Je vois ma vision des choses comme ça. Pour moi, ça doit être, avec les joueurs, un accord. C'est-à-dire qu'on est sur un plan de développement, ils sont sur une carrière. Et moi, ma vision des choses, c'est que le joueur prenne conscience de ça et soit en accord quand je lui demande un travail. Je déteste forcer les mecs à dire « À toi, il faut que tu fasses plus. Allez, viens, je t'oblige à faire ça. » Non, c'est, on a une discussion. Ils sont acteurs de leur carrière. Donc, à un moment donné... Voilà, ça marche mieux quand,
aussi, il faut
quand
qu'il
ça
soit
va dans les sens.
Une question un peu provoque, finalement, Aymeric Darbelay, est-ce qu'il faut être méchant pour être un bon entraîneur ? Méchant avec ses joueurs ?
Non, surtout pas. Il faut juste leur donner envie de travailler.
Et comment on donne envie à des joueurs de travailler ? Est-ce que c'est par de la motivation, des objectifs ? Est-ce que c'est par de la discussion, tout simplement ?
Faut leur faire comprendre ce que tu veux faire et le but de ce que tu fais. Voilà.
Être transparent.
Oui, ou alors, enfin, moi j'aime bien aller par l'absurde en fait. Je n'explique pas au début. Et une fois qu'ils ont fait une ou deux séquences, je vais leur dire peut-être pourquoi. Mmh. Ou alors, il y en a qui viennent me voir.
Ah, voilà. C'est pour les faire cogiter un peu ou...
Oui, parce qu'on a les joueurs de foot sont des gens intelligents. Mmh. Voilà, donc c'est pourquoi on leur a proposé ça. Voilà. Généralement, ils comprennent.
Vite.
Disons que ceux qui comprennent vite, c'est ceux qui s'agacent le plus vite, en fait. Mmh. Voilà. Je pars du principe que quand on fait une séance, je ne mets pas des contraintes, mais je mets des solutions. Il y a une nuance, pour moi, elle est importante. Sauf que pour certains, des fois, ce n'est pas très foot.
Mmh. Voilà. Est-ce que c'est ceux qui s'agacent vite parce que les autres autour d'eux ne vont pas assez vite dans la réflexion, ou est-ce que c'est que c'est leur caractère ?
Les niveaux de compréhension ou les niveaux techniques ou
sont tous différents.
Sont tous différents. Ouais. Donc il y en a qui ont une réflexion qui va plus vite, qui comprennent plus vite les choses, qui sont capables de les assimiler plus vite. Et c'est ceux-là qui peuvent avoir tendance à s'agacer. Moins maintenant qu'au début de saison, parce qu'au début de saison, ouais, y a, pour certains, ça a été long. Donc il a fallu, fin de prépa, que je leur ai fait une vidéo, voilà, sur nos principes et pourquoi on avait fait ça, quel était le but.
Est-ce que c'est finalement le temps d'adaptation nécessaire pour recevoir, entre guillemets, l'identité RAF à sa propre personne ? C'est ça ? Ou pas encore ?
Ce qui est difficile, c'est d'arriver à combiner ce que veut faire Toto en termes de données physiques et de ce qu'on veut faire avec le ballon. Voilà. Sauf que... vu que tout le monde va prendre un peu plus de temps pour tout comprendre et tout assimiler, on fait quelque chose d'assez global. Donc, pour certains, ça va plus vite. Donc, il faut que ceux qui sont derrière avancent vite et ceux qui sont devant les emmènent, les tirent vite vers le haut. Mais il faut qu'on arrive à concerner tout le monde. Donc, il faut que l'avancement du travail soit plutôt simple.
Oh, vous avez eu votre question provoque, Aymeric. On va la poser également à Thomas. Est-ce qu'il y a des joueurs qui travaillent moins que d'autres aux séances d'entraînement physiquement ?
Forcément. Il y a des joueurs qui aiment ça, qui adorent ça. D'autres qui sont un peu plus, on va dire, feignants. C'est pas forcément le bon mot, mais ça, c'est la nature humaine. Certains, il faut plus essayer de les accompagner, essayer de leur tirer la main pour qu'ils travaillent. Et t'as certains joueurs, il faut même les freiner parce que...
Ils en font trop ?
Ouais, ils auraient tendance à trop vouloir en faire. Et c'est pas forcément mieux non plus.
Alors par nature, ouais, il y en a qui en font moins que d'autres, et par nécessité aussi. On parlait des courses à haute intensité, évidemment, on pense tout de suite à Andreas notamment, mais est-ce qu'il y a des joueurs pour qui c'est pas si important que ça, je pense à un défenseur central, de travailler cet aspect-là ?
Ouais, après, c'est réducteur, parce que chaque joueur a ses qualités et apporte à l'équipe ce qu'il a besoin. C'est-à-dire qu'un mec, on va prendre comme Moinis Taibi, il n'a pas la capacité de faire autant de sprints qu'Andreas, mais sur d'autres aspects, il va tirer le groupe vers le haut.
L'endurance ?
Par exemple, quoi. Chaque joueur un peu a sa capacité, et moi, je dois développer cette capacité pour qu'il rentre dans le projet de jeu du coach. Oui, forcément, un joueur comme Andreas, si on prend sur l'aspect de répétition des sprints, il adore ça, et il veut toujours en faire en fin de séance. Pour certains autres joueurs qui n'ont pas cette capacité, ouais, c'est compliqué. C'est à moi d'essayer de les tendre pour qu'ils progressent. Mais ce n'est pas non plus le but ultime parce que ça... ils ne viendront jamais des experts dans cette matière-là. Donc, à moi de les développer aussi sur un autre aspect pour qu'ils soient aussi utiles à l'équipe et pas forcément sur cette répétition de sprint.
Donc, ce n'est pas qu'une question de poste, c'est aussi une question de morphologie, quoi.
Il y a plusieurs types de joueurs, je vais être rapide, mais il y a des joueurs comme Andreas Utonji qui vont très 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 vite, par contre qui ont du mal à mettre beaucoup de volume dans un match. Donc moi, mon but, ça va être de garder cette grosse qualité-là et d'essayer, à la place qu'il fasse 70 minutes d'intensité, d'en faire 75. Il y a d'autres joueurs comme Wanis Taibi qui vont être ultra endurants, qui peuvent faire 14 km par match, et qui au début de saison faisaient 10, 11 sprints. Ben, mon but, c'est de l'amener à 18, 19 sprints, mais sans qu'il perde sa qualité de base, qui est l'endurance. Et on a des joueurs hybrides comme Kylian Corredor, qui arrivent un peu à faire les deux, où pareil, on doit essayer de, que ce soit optimal. Voilà. Ce n'est pas des paratonniens, ce n'est pas des sprinters, c'est des joueurs de foot. Donc il faut trouver la bonne dose de chacun pour qu'il soit le plus performant. Voilà.
Si, ouais, on avait que des, si on n'avait que des Utonji, ou que des dangers, ou que des Taibi, on ne serait pas là en fait. C'est que
c'est une harmonie.
Ouais, chacun a son rôle en fait.
Ce qui est intéressant, oui, c'est de faire avec les qualités des joueurs et de les tenter de les perfectionner. Mais vous ne tentez pas de faire d'un joueur ce qu'il n'est pas, quoi.
Non, il faut. Pour moi, le but, c'est de travailler dans la qualité du joueur. Parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Si Mbappé est aussi fort, c'est parce qu'il a une qualité d'accélération incroyable. Ben, sur nos joueurs, c'est pareil. On doit développer la qualité phare de ce joueur-là. Et essayer de gommer un peu ses défauts si ça porte préjudice au projet de jeu de l'équipe. Voilà.
Le projet peut changer également avec le profil du joueur. On pense à, par exemple, sur le front de l'attaque, on parlait d'Andreas Utonji. Ce n'est pas la même qualité qu'Yann Corredor, mais ce n'est toujours pas la même qualité que Clément Desprez, par exemple.
Non, mais par exemple, si on prend un mec comme Clément, je dois essayer de le renforcer sur ses qualités, qui est le jeu de pivot, qui est la force, les duels, tout en essayant de l'amener à sprinter un peu plus.
Oui, parce que c'est devenu davantage le sens du jeu.
Parce que c'est davantage qui est mis en avant par le coach. Donc je dois lui faire travailler la qualité de force, parce que quand il rentre, c'est hyper important dans le jeu de déviation, dans le jeu de pivot. Mais s'il veut jouer un peu plus, il faut aussi que j'arrive à le faire sprinter un peu plus, sachant que on n'est pas des magiciens et que du jour au lendemain, je ne peux pas le transformer sur un autre profil. Et ce ne serait même pas
bénéfique pour lui, quoi.
Pas bénéfique, parce qu'à un moment donné, c'est comme dit Imric, c'est la richesse de la diversité des joueurs qui fait qu'on est là et que ça marche. Quoi.
Ouais. On a vu certains joueurs connaître une petite baisse physique cette saison, ce qui est normal, mais ça a été plutôt rare. Ceux qui en ont été victimes, souvent, c'était des joueurs qui avaient eu beaucoup de temps de jeu et qui avaient peut-être besoin de souffler un peu. Dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a que le repos pour améliorer les choses, moins jouer, ou on leur fait un programme un peu différent pendant la semaine Comment on les rebooste, on les remet dans le droit chemin?
Ça, c'est la grosse question qui est hyper compliquée au foot, parce que, comme je vous dis, vous avez 25 joueurs, avec certains qui jouent beaucoup, d'autres qui jouent peu. Et on ne peut pas, à un moment donné, je ne peux pas arriver le lundi, voir Didier et Emeric et dire « Écoutez, là, ces 5 joueurs-là, il faudrait qu'ils s'entraînent qu'une fois sur deux. » Je pense que Darbel va me regarder, va me dire « Mais enfin, non, ce n'est pas possible, quoi. »
Pourtant, dans l'absolu, c'est ce qu'il faudrait faire ?
Non, c'est essayer d'adapter, mais...
La charge de travail ?
Plutôt autour. C'est-à-dire que pour moi, la séance d'entraînement, ça reste des footballeurs, on n'est pas en surentraînement, donc il faut la garder. Par contre, c'est autour de ces séances-là, qu'est-ce qu'on fait avec eux pour augmenter la récup, pour diminuer cette fatigue.
Donc c'est finalement outrepasser le sportif et un peu s'immiscer dans la vie privée du joueur en lui disant calme finalement les sorties, calme les idées d'activité que tu peux faire à côté. Ça peut être ça ?
Ça, c'est une autre question. Moi, mon rôle, c'est quand ils arrivent à 8h le matin, jusqu'on va dire, aller quand on double à 18h le soir. Après, oui, on essaie de leur donner des conseils sur la vie privée, sur des choses comme ça, mais à un moment donné, c'est leur vie, c'est leur carrière, et on ne peut pas non plus les fliquer H24. Ce serait contre-productif, quoi.
Au-delà de l'entraînement sur le rectangle vert, il y a quand même des choses à faire différemment, suivant les joueurs, suivant leur état de forme.
Mais c'est ça, c'est qu'on marche beaucoup, nous, avec les notes RPE, les choses comme ça, c'est des indicateurs de fatigue, sur comment ils sentent la séance, C'est un terme anglais, donc je ne vais pas le sortir, mais en fait, c'est un questionnaire qu'on a adapté. On a plusieurs questions où à chaque fois, je leur demande l'intensité de la séance, le niveau de fatigue et le niveau de sensation musculaire. Et ces notes-là me permettent de voir l'état physique du joueur, me permet aussi de dire au coach et à Emeric, voilà, attention, là, beaucoup de joueurs sont hauts et demain, il faut faire attention. Ou à l'inverse, bon, le jeudi où c'est, on est à J-2, peut-être que ce jour-là, il faut le couper ou pas. Voilà. Sachant que je ne suis pas fan du tout repos et de la récup à outrance. Comme je dis, le corps, il s'adapte. Et à un moment donné...
Je vois donc pas donner comment... des jours pour des jours, vous n'êtes pas favorable?
Non, parce que je ne vois pas comment un corps qui est pendant 3-4 jours au repos peut tout d'un coup superformer comme ça. La machine humaine, c'est très compliqué. Et...
Pourquoi vous rigolez, Emeric?
Parce que ça me va très bien.
Vous êtes d'accord avec ce
qu'il dit? Ah ouais, mais ça me défend...
Gare au relâchement.
Non, mais des fois, on leur a donné trop de jours.
Cette saison?
Oui.
Ah oui, on a eu l'impression qu'il y en avait eu moins que...
Oui, peut-être eu moins, mais... Après, ce qu'il faut savoir, c'est que avec Thomas, nous, on définit notre semaine le jeudi. Le jeudi, on définit la semaine d'après. Mm-hmm. Donc, en fait, on ne sait pas du tout ce qui va se passer le week-end, en termes de si on a des blessés, des trucs comme ça, ou des joueurs fatigués. Mais en fait, on ne les modifie pas.
Quoi qu'il arrive?
Non.
C'est hors cas exceptionnel.
Ouais, voilà, mais c'est très, très rare. Parce que... on est dans le développement de notre groupe et de nos joueurs.
Mmh. Voilà. Donc, oui, vous avez tracé une direction.
Oui. Mmh. Ouais. Et Didier a dit des choses en début de saison, il s'y tient. Il n'a pas modifié son discours. Et moi, en termes d'entraînement, je n'ai pas changé ce que je voulais faire. Mmh. Voilà. Les résultats n'ont pas changé la manière dont je voulais faire mes entraînements. Toto, en fonction des résultats, la manière dont il a travaillé, ça n'a pas changé. Voilà. On était vraiment sur les joueurs et ce qu'on pouvait faire avec les joueurs.
Et on a le sentiment, d'ailleurs, ça pourrait, dans certains cas, ça pourrait passer pour jusqu'au boutisme, mais quelque part, on a l'impression que l'ensemble du groupe a une vision commune du projet de jeu un peu plus homogène. Qu'il y a moins de tiraillements peut-être entre des joueurs qui voudraient jouer comme ci, des joueurs qui voudraient jouer comme ça. Il y en a toujours, j'imagine, mais on a le sentiment quand même que ça marche assez droit, quoi, finalement. Et que tout le monde a à peu près la même vision.
Je ne vais pas rentrer dans certains trucs qui se sont dits ou passés dans le vestiaire, mais c'est là où Didier a son importance. Mmh. Voilà. Où des fois, il est surprenant dans ce qu'il va nous faire dans ses retours de match. Mais c'est aussi ça qui fait sa force, c'est que des fois son truc c'est ça. Des fois il est surprenant parce qu'on s'attendrait des fois à ce qu'il soit très câlin avec les joueurs ou très dur, et en fait des fois il va partir dans autre chose. Mmh. Voilà. Mais par contre son idée directrice à lui c'est toujours la même.
Et c'est quoi l'idée du coup? Est-ce qu'on peut savoir?
Il vous la dira à la fin, s'il veut, c'est la sienne.
Donc, réponse au bout de 38 journées de championnat pour savoir s'il nous la donne.
Ouais. Et oui, peut-être qu'à un moment donné, les joueurs. Je ne vais pas dire sortir du cadre, parce que ce n'est pas ça, mais. Ouais, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un petit peu de.
Ils se sont posés des questions.
Ouais, peut-être. Sauf qu'aujourd'hui, tous les résultats qu'on a ne sont pas anodins et ne sont pas là par hasard.
Oui. Mmh.
C'est qu'aujourd'hui, ils savent très bien, ça ils l'ont compris, et Didier leur a suffisamment répété, si vous restez dans ce qu'on sait faire, on peut faire des choses. Si vous en sortez, peut-être qu'on peut avoir des surprises. Si on reste dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on sait faire, on ne gagnera pas tout, mais on gagnera des matchs. Ça, c'est sûr et certain.
Ouais. On parlait de trous d'air physique, il y en a eu peu. Il y a eu peu de trous d'air en termes de résultats aussi. Il y a eu des séries, mais par exemple, Rodez n'a jamais enchaîné plus de défaites de suite cette saison. C'est arrivé seulement deux fois en plus, deux défaites d'affilée. Donc on peut dire que Rodez, généralement, ne repère pas quand il a perdu un match. Et une seule fois, Rodez a connu cinq matchs sans victoire. C'était entre la 11e et la 15e journée. Pour vous, ça c'est le projet de jeu, c'est le physique qui l'explique, c'est un peu les deux.
Je vais attaquer. Mmh. Faut remettre les choses à sa place. Le travail physique, c'est pour moi, allez, 20% de la réussite du week-end. il y a d'autres facteurs comme le mental, la technique, la tactique, l'effet de jeu, que dire on a fait une bonne saison grâce au travail physique ou alors on a perdu deux matchs d'affilée à cause du travail physique, voilà, c'est des conneries. Il y a une partie, mais ça ne fait pas tout. Il y a des fois, cette année, on a perdu ou fait des matchs nuls avec des datas incroyables. Je prends le nul qu'on a fait à Amiens, par exemple, où tu regardes les datas, tu dis waouh. Et ça se trouve, il y a quelqu'un qui va me dire oh, physiquement, vous n'étiez pas top. Tu regardes les datas, tu dis c'est pas possible. Et par contre, à Annecy, où je crois que c'était notre match le plus catastrophique au niveau des datas, et pourtant, tu gagnes 2-1 et tout le monde était heureux, tout le monde disait putain, physiquement, on était bien.
Alors que, peut-être que Annecy a une dimension extra-sportive aussi à rajouter dans cette rencontre.
Je prends ce match-là comme j'aurais pu prendre un autre, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se fier qu'aux datas ou que ouais, on a perdu 2 matchs, c'est le physique, ou on a gagné 3 matchs de suite, c'est le physique.
Ce ne sont pas des explications principales.
Non, c'est un tout. De toute façon, c'est ce qui fait la beauté du foot, c'est que c'est pas l'équipe la plus physique qui va gagner. Ça va te faire gagner ou perdre des points sur une saison, mais ça ne fait pas tout.
Si c'est pas le physique qui explique finalement cette série de 5 matchs sans victoire entre la 11e et la 15e, c'est quoi, Aymeric Darbelay ? Est-ce que c'est
je crois qu'on fait 3 défaites dans les 9 premières journées.
Ah oui, mais pas d'affilée.
Non. Hein. Ouais. Mais on en fait 3 sur 9. On fait 3 dans les 9 premières journées. Et je pense que ça, pour le coup, c'est par rapport à tout ce qu'on a fait en amont.
Ou que tout le monde prenne le temps de s'adapter au projet de jeu.
Il y a ça. Voilà. Et que, parce que bon, il a parlé de Wanis Taibi. Heureusement que le coach n'écoute pas les sirènes, parce que et sa première apparition, on avait dégoté Zinedine Zidane quand même. Et il lui a laissé du temps. Il lui a laissé du temps pour se faire. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi ses performances, c'est qu'il a tout assimilé. Voilà, il était aussi suffisamment intelligent pour le faire. Après, entre 11 et 15, c'est ça ?
Oui.
C'était quoi les matchs ?
Alors, j'ai regardé les trois défaites dont vous parliez. C'est du coup Laval en fin août, Valenciennes fin août aussi. Et c'est la défaite à Auxerre, mais ça arrive qu'en septembre. Parce qu'entre-temps, il n'y a pas eu de troisième défaite. Il y a eu la première journée, c'est Ajaccio, match nul. Deuxième match, c'est Rodez-Saint-Etienne.
Ajaccio, on fait match nul.
Oui, un partout. Ouais. Victoire contre Saint-Etienne à Polignon 2-1. Ouais. La défaite à Laval, donc pour la troisième journée. Ensuite, Valenciennes. Match nul contre Pau, 2 partout. Victoire contre Angers 4-1. Victoire contre Dunkerque 2-1. Victoire contre Troyes 2-1. Et défaite à Auxerre 3-1. On peut enchaîner ensuite après, victoire contre Caen 5-3. Match nul à Rodez contre Bastia, 1 partout. 2-2 contre Bordeaux. Défaite à Quevilly. Match nul à Guingamp. Et après, il y a la Coupe de France qui rentre en jeu.
Et défaite après contre Laval, non ? C'est ça ? C'est la fameuse série, ça, c'est la fameuse série des 5 matchs.
Voilà, cette série-là. Mais cette série-là, il y a combien de défaites dans cette série-là ?
Il n'y en a pas beaucoup. Puis il y a match nul contre Bordeaux, contre Bastia.
Il y en a 3.
Sur les 5, entre la 11e et la 15e ?
Ah, entre 11 et la 15e ? Ouais. Attendez, je vais vous laisser discuter entre vous et laissez-moi le temps de chercher.
Oui, puisque c'est apparemment cette série-là. Mais si on repasse, c'est la série...
Oui, mais disons que c'est peut-être la plus significative de la saison. On se dit, ah, là, il y a peut-être eu un petit coup de mou. Ouais.
Je suis comme Toto, moi, j'y crois pas.
Ouais, d'accord.
Alors, il y a forcément des... moi, je repense à Bastia, puisqu'il y a eu Bastia. Bastia, on prend un but sur une touche au bout de 6 minutes. Alors, Après, vous avez... Placide qui fait Jésus dans les buts. Si on reprend le match de Valenciennes.
Jean Louchet également, qui fait le meilleur match de sa vie.
Il fait 10 arrêts dans le match. Donc c'est. Bordeaux, ça reste un match particulier. Contre Guingamp, on fait 0-0.
On est dans cette série justement, entre la 11e et la 15e journée. Bastia, Bordeaux, QRM, Guingamp, Grenoble. Avec des résultats à la clé. Bastia 1 partout, Bordeaux 2 partout, QRM défaite à Quevilly-Rouen, match nul à Guingamp 0-0 et défaite contre Grenoble 2-1 avant la 16e journée et la victoire à Concarneau.
Voilà. Alors, hormis le match de QRM, où là pour le coup, on a eu un trou d'air. Il y a eu un problème d'avion encore ce jour-là.
Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des explications.
Non, ça c'est une fausse, c'est des excuses. Ça.
Vous avez mangé au bowling en plus, c'était pas ce moment-là ?
Faut pas chercher excuse ou alibi à toute contre-performance. Mais non, mis à part celui-là où, oui, on est passé à travers, le reste...
Ouais. Pas de trou d'air, pas forcément de trou d'air physique. Alors, autre explication...
Ni forcément dans le jeu. Hein.
Alors, un des chantiers principaux de cette saison, ça a été finalement celui sur lequel il a fallu beaucoup travailler, c'est l'attitude défensive. Didier y est souvent revenu. On a beaucoup parlé, lui a parlé beaucoup de mental pour expliquer ses défaillances. Est-ce qu'il a fallu aussi travailler techniquement ou physiquement sur ce point, sur l'attitude défensive des joueurs ?
L'attitude, c'est pas du physique.
Mm-hmm. Sortir, jaillir sur un mec...
Ça, c'est pas du physique.
Ouais, d'accord. Ok. Non,
mais cette vraie question, alors, c'est de l'aspect mental
C'est mental, c'est ce qu'on a appris quand on est plus jeune, sur une mentalité.
Mm-hmm. Voilà. Le refus de perdre le duel ?
De le jouer déjà.
Le refus de le jouer.
De le jouer et puis de savoir comment le jouer. Mmh. Individuellement, on a des joueurs qui sont capables de perdre très très peu de duels dans un match. Après, avec le contexte du match, les adversaires, des fois on les joue différemment. Si on est deux sur un joueur, généralement c'est qui le prend, qui joue le duel, toi ou moi.
Ouais. Il ne faut pas se faire de politesse.
Il faut déjà communiquer, savoir qui va le faire. Mmh.
Donc là-dessus, sur ce chantier-là, Thomas, vous avez pas eu de... On vous a pas dit, fais quelque chose.
Non. Non. Moi, j'essaie de préparer les joueurs au mieux. Après, travailler sur des aspects comme ça, c'est pas de mon domaine ni de ma compétence.
D'accord. Où il va intervenir, c'est que si on a...
On aurait pu imaginer qu'il y avait une part d'explosivité, vous voyez.
Mais le rôle de Thomas, ça va être si vous avez Raph ou Ako qui débordent et qui vont centrer.
Raphaël Lipinski, Hakim Abdallah, je suppose.
Ouais. Et ben, le boulot de Toto, c'est de les faire courir pour qu'ils reviennent en sprint pour défendre.
Ouais. Le contre-effort.
Voilà.
Oui, parce que ça faisait partie effectivement du chantier, ça aussi.
Et là où Didier a un rôle important, c'est que lui, il a été défenseur, avec une très belle carrière. Pour ceux qui ne savent pas, allez voir Wikipédia.
Mais de la grinta.
Voilà, donc il y a des choses qui apparemment l'exaspèrent. Ouais.
Notamment pour les supporters de Marseille qui peuvent aller voir évidemment les exploits de Didier Santini.
À travers son discours, effectivement, à cette époque. Et ça s'est beaucoup amélioré.
Oui, parce que le jeudi matin, on fait des spés. Et il s'occupe de toute la séance au niveau de spés défensifs. Et ça porte ses fruits. Ouais. Mais il a fallu aussi que prendre un peu de temps. Après... Si je peux mettre une petite parenthèse.
On peut.
On a la deuxième attaque de Ligue 2.
Voilà. Derrière Auxerre.
Voilà. Et.
Ça a un prix, c'est ça que vous voulez dire ?
De quoi ?
Le fait d'être deuxième attaque, forcément, il y a des.
En fait, je pense aussi, parce qu'on est Rodez, c'est pas être. Voir les choses trop noires, mais. On n'est pas Auxerre, on n'est pas Bordeaux, on n'est pas Saint-Étienne, on n'a pas leur budget. Donc, déjà, ce qu'on arrive à faire en termes. De jeu offensif, c'est incroyable. Donc peut-être qu'à un moment donné, on a aussi, on pêche où on a cette contrepartie.
Ouais. Voilà. Mais qui s'est bien rééquilibré. C'est vrai qu'au début de la saison, on disait on marque 5 buts, mais du coup on en prend 4.
Ouais, depuis l'année civile là, on est beaucoup beaucoup mieux. Mais il faut pas croire que nos défenseurs étaient contents de prendre des buts. Hein.
Bien sûr.
Ou Lionel, ou Seb, peu importe, mais voilà.
Depuis le début de l'année, j'ai regardé finalement les résultats de Rodez depuis le 13 janvier. C'est le premier match de l'année 2024, c'était contre Pau, victoire 2-1. Ensuite, il y a eu Guingamp, 3 partout. Match à rebondissement, surtout au début de rencontre. Ensuite, il y a eu la défaite contre le Stade de la Valois, 2-1. Même score contre Angers, 2-1. 0-0 contre Dunkerque. Dunkerque qui est une équipe qui surperforme en 2024, notamment grâce à des arrivées...
Et on est à 10.
Et on est à 10, et Rodez est exclu, un joueur exclu effectivement. Victoire à Bastia 2-0, victoire contre Valenciennes 2-0, 2-2 contre Bordeaux, 1 partout contre Amiens et 3-1 contre Grenoble. Il y a quand même quelques petits buts quand même pris par Rodez, ça fait partie du jeu, évidemment. L'objectif pour chaque équipe, c'est d'aller marquer le plus grand nombre de buts que l'adversaire. Mais là, force est de constater que Rodez en prend moins qu'en 2023.
Oui.
Ah oui, très nettement. Moins de buts stupides.
C'est sûr.
Selon l'expression chère au coach, effectivement, qu'il a beaucoup utilisé au début de la saison et de moins en moins, effectivement, au fil des semaines.
On est en pleine période de trêve internationale. On est avec, dans le club 100 heures, Aymeric Darbelay et Thomas Fred, qui sont nos invités, en plus de Jean-Charles Virlogeux, bien sûr. Période qui est importante, évidemment, puisqu'il y a des joueurs qui partent en sélection. On peut prendre le cas de Lionel Mpassi, qui est revenu blessé de la CAN. Est-ce que quand on est préparateur physique, on appréhende ce genre de trêve internationale, Thomas ?
Par rapport, vous dites, aux joueurs internationaux ou
Par rapport aux joueurs qui peuvent revenir plus fatigués que ceux que l'on a à disposition, qui peuvent revenir éventuellement blessés, et ça peut avoir un impact sur la suite du championnat. On rappelle qu'il y a encore quelques journées à disputer, 9, d'ici la fin de la saison.
Ouais, après, je le vois aussi comme une opportunité pour certains d'avoir du temps de jeu, de jouer, de voir des choses, et ça peut être aussi bénéfique pour nous. Alors, on est toujours inquiet. Qu'un joueur entre blessé ou extrêmement fatigué, mais après c'est mon rôle justement d'essayer de tout faire pour qu'il soit disponible, soit le week-end qui arrive, soit sur le reste de la saison.
Et là par contre on a un petit mot à dire au coach en disant lui il est cuit, vaut mieux pas le faire jouer.
Mais forcément c'est aussi l'avantage du staff, c'est que tout le monde peut parler, c'est que avant les séances ou des fois je donne des choses à Didier ou à Aymeric en disant attention à lui, à lui. Après le rôle du coach c'est d'en prendre part et de décider.
Ça avait été le cas, il me semble, en milieu de saison avec Andreas Ntondji, qui était revenu un peu tardivement de sa sélection du Bénin, et qui, du coup, n'avait pas pris part au match juste après la trêve.
Après, c'était une question entre lui, le coach, et nous, un peu sur l'aspect médical, où on a notre avis à donner, le joueur a son avis à donner, et après, c'est une discussion avec le coach.
Le joueur, il ne veut pas tout le temps jouer ?
Pas tous. Certains
plus
veulent
attention que
toujours
physique.
Jouer même à 10%, d'autres à 95% te disent oh là là, attention, je suis peut-être un peu fatigué. Voilà, ça dépend des joueurs.
Et votre rôle finalement, c'est de lui dire, lui faire comprendre que il peut être essentiel à l'équipe.
Mon rôle, c'est justement, faut pas que en fonction du joueur, j'interprète les choses, de dire toi t'es important, toi t'es pas important, ce serait une grave erreur. C'est d'essayer de regarder les données qu'on a. Qu'est-ce que le joueur me dit sur comment il est, est-ce qu'il a bien récupéré tout ça, de faire une synthèse et de dire au coach, voilà, moi, ce joueur-là, sur l'aspect athlétique, je le sens ou je le sens pas.
Ouais.
Après, le joueur, il peut être à 80% et marquer un triplé le week-end. C'est pour ça que je vous dis que l'aspect athlétique, à un moment donné, c'est 20%. Mmh. Ou alors, le joueur, il peut être en feu athlétiquement et
il
faire un mauvais match.
Bien sûr.
Donc, c'est pour ça que je donne mon avis sur lui, attention, peut-être qu'il y a un risque de blessure augmenté ou pas.
Est-ce que ça veut donc dire que lors du triplé de Tyreek Arconte, il était à 10-15% de ses capacités ou il était à 100% de ses capacités face à Caen ?
Non, 100% ça n'existe pas. Donc déjà, non, il était forcément à un bon degré. Mais je reviens à un truc fondamental qui est, moi j'ai mon mot à dire sur l'aspect athlétique du joueur. Et après, c'est Didier qui, en fonction de sa vision des choses, en fonction de ce qu'il veut faire avec l'équipe, qui choisit si le joueur doit jouer, doit être remplaçant, ou doit pas être du déplacement. Et c'est façon le mec le plus à même pour décider. Quoi. Parce que lui, il a vraiment toutes les données tactiques, techniques, mentales, physiques pour décider. Quoi.
Vous avez une partie et lui, il a la vue d'ensemble.
En fait, nous, moi, le staff, je le vois un peu comme ça. On apporte notre compétence qui est diverse au coach. Et après, le coach, lui, il prend l'ensemble de ses idées et il décide il prend la décision. Quoi, voilà.
En fait, Didier, faut qu'il sache tout. C'est le boss.
Il a toutes les cartes en main.
Voilà, c'est lui le boss. C'est lui qui tranche. Le truc, c'est qu'on doit lui donner l'info au bon moment. Faut pas qu'on lui jette trop d'infos parce que lui a tout à gérer. En plus de ses joueurs, en plus du staff, la direction, la presse, lui, il a tout. Donc en fait, je parlais du stage, par exemple, tout à l'heure. Pour l'instant,
il sait pas.
Pas tout.
C'est pas le moment de.
C'est pas tout.
Ouais.
Voilà,
pas de tout. L'embêter, entre guillemets.
Non,
ça.
Non. Quand il y aura besoin de trancher, on lui donnera et il fera.
Il faut pas lui polluer le cerveau.
Non. Il faut qu'il soit à l'essentiel, il faut qu'il soit.
Ça s'appelle savoir déléguer, finalement.
Ouais, je pense, ouais. Bon, après, il sait aussi nous dire quand on n'a pas fait ce qu'il fallait. Ouais. Mais c'est aussi savoir montrer que c'est lui le patron. Voilà. Mais après, pour revenir,
il est capable de dire si ça lui plaît pas.
Ouais, et puis c'est bien de dire. Non, mais il est très ouvert, c'est qu'il sait nous le dire. Par contre, si on a un truc qui nous convient pas, il nous laisse vraiment parler. Voilà. Pour revenir sur ce que disait Toto par rapport aux joueurs, ce qui est important, et c'est là où où moi, par exemple, j'ai pris un poil plus de recul avec les joueurs, c'est que lui, il a un rôle où il faut que les joueurs aient vraiment confiance en lui, au niveau... c'est pas qu'ils n'ont pas confiance en moi, c'est pas ça, mais au niveau de ce qu'ils vont pouvoir dire sur leur ressenti physique. La seule séance où Toto peut mettre un joueur au repos, ça va être celle du jeudi matin, qui est à J-2. Là, de temps en temps...
Parce que c'est une date cruciale, à J-2, Thomas ?
En fait, J-4, J-3, on a vraiment des cibles à atteindre, que ce soit musculaire ou du grand jeu. Et pour moi, pour le mec, pour qu'il soit bien le week-end, il faut qu'il ait une charge importante à J-4 et à J-3. Je parle dans notre manière de fonctionner. À J-2, c'est un peu la séance où on commence à faire du jus. Donc, sur le mec qui a bien récupéré, on peut faire de la vitesse, des appuis, plein de choses. Par contre, sur le mec qui a une fatigue un peu plus extrême, on peut se dire qu'on va le laisser en salle pour travailler différemment. Voilà, c'est le seul moment où on peut vraiment s'adapter. Voilà, on a une petite fenêtre.
Et donc, il faut que les joueurs aient confiance dans Thomas quand ils vont lui dire. Mais aussi, il ne faut pas que le joueur doute de ce que lui va prendre comme décision. Je prends l'exemple de Kylian, il y a 3 semaines. Il me dit, bon, écoute, Kylian, demain, tu l'oublies sur ton spé. Waouh. Et je sais, pour un attaquant, ce que c'est de ne pas faire un spé. Tir au but.
Oui, avoir la sensation de marquer, voilà. La prise de confiance, ouais. Et ainsi de suite.
Et donc, moi, le jeudi matin, je lui dis, ben, Kylian, tu restes là. Et il n'avait pas envie. Hein.
Donc, c'est dur à annoncer ?
Pour moi ?
Ouais.
Non, c'est surtout moi qui va gueuler. Donc, donc non. Donc, ouais, il a un peu râlé sur Thomas. Ils se sont expliqués. Le samedi, il a mis 1 ou 2 buts, d'ailleurs.
Oui. Donc, la semaine, c'était pour son contre Grenoble. Ouais. Avant Grenoble.
Ouais, voilà. Donc, moi, le dimanche matin, au décrassage, je lui ai dit...
Tu vois, on a bien fait.
Tu vois, ça t'a pas empêché de mettre des buts.
Ouais. Est-ce que c'est justement...
Là, vous marquez des points, là. Sur
voilà. Est-ce, non, voilà. Est-ce que c'est justement ce type de comportement...
Ce rapport de confiance est très important. Parce qu'un mec comme Kylian...
Il veut jamais s'arrêter.
Non, il est toujours au taquet. Toujours.
Mais est-ce que c'est justement ça, votre rôle, d'avoir l'expérience nécessaire pour lui dire... Calme-toi, et c'est pas pour autant que tu seras moins bon, mais moins performant le samedi.
En fait, pour expliquer les choses, c'est que, bon, on va pas cacher les choses, Kylian avait pris un choc sur la cheville, et j'en ai parlé avec les kinés et le doc, forcément, et ils m'ont dit, bon, pour ce week-end, il n'y a aucun souci. Par contre, attention demain, s'il fait une cinquantaine de frappes, ça pourrait, lui, relancer la douleur.
Ça pourrait créer des traumatismes.
Voilà, mais tout en étant quand même... Comment qualifiable pour le week-end, mais attention, il pourrait jouer avec une petite douleur. Donc moi, le but, c'est que ça arrivait jeudi matin, j'ai 30 minutes pour réfléchir, pour dire point positif, point négatif. Ok, c'est un attaquant, s'il ne fait pas la séance de spé, il ne va pas avoir forcément comment le week-end de repère. Mais le point négatif, c'est si le week-end, il joue avec une douleur, je suis un con. Enfin, c'est pas le but. Le but, c'est qu'il soit...
C'est plus handicapant que le ratio bénéfice-handicap, il faut
c'est
le mettre.
C'est ça. Donc, j'écoute ce que disent les kinés. J'ai mon ressenti aussi par rapport aux joueurs, parce que je sais que Kylian, pour qu'ils disent qu'il a une petite douleur, certains seraient au repos pendant 3 semaines. Enfin, j'abuse, mais... Et donc là, mon rôle, ça a été d'aller voir Darbel et Didier en leur disant, voilà, Kylian, pour moi, ce serait... plus que bénéfique, qui reste au repos, parce qu'il y a ça. Après, ils auraient très bien pu me dire, non, mais ils s'entraînent. Et là, c'est leur choix, c'est...
Oui, vous les avez alertés, vous avez fait votre devoir,
là,
votre
tout
mission.
Tout le monde avait vu juste, finalement. C'est ça. Et voilà. Le scénario du match a donné raison à tout le monde.
De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est Didier qui tranche.
Parce que vous apportez les infos.
Exactement. Si après, lui, il veut qu'il s'entraîne, il s'entraîne.
Et il a bien fait de vous écouter, alors. Probablement.
Après, il ne faut pas voir ça qu'à court terme.
Voilà, oui,
le football,
bien sûr.
C'est tellement compliqué que des fois, on fait une bonne chose et on est payé qu'un mois après.
Mais là, en récoltant les fruits tout de suite, la prochaine fois que vous irez le voir pour lui dire il vaut mieux lever le pied aujourd'hui, il se dira...
Vous connaissez très mal Kylian.
Non, mais c'est vrai que ça peut servir d'exemple, en tout cas.
C'est ça.
Peut-être que ça ne rentrera peut-être pas tout de suite dans la tête du joueur.
C'est ça.
Mais en tout cas, l'exemple est là. Et peut-être que pour d'autres, au contraire, ça va les faire cogiter en disant... Bah, ils ont pris une décision avec Kylian, ça aurait pu m'arriver cette semaine-là. Finalement, c'était la bonne décision, puisque Kylian, il a quand même joué le week-end, et il a quand même été performant. Ça peut aussi faire...
De toute façon, c'est jamais une punition.
Oui, mais peut-être que dans la tête d'un joueur, c'est vu comme une punition.
Des fois, s'ils doivent aller courir avec Thomas, ils préfèrent rester en salle, je pense.
Donc c'est d'autres types de punitions, finalement.
Bon, en tout cas, cette coupure qui touche à sa fin, hein, puisqu'il y aura match ce week-end, on va y revenir dans deux secondes, elle intervient au moment où donc Rodez s'est hissé à la cinquième place. Évidemment, ça ouvre la voie aux défis les plus fous. Du coup, gérer 15 jours sans match avec ce statut-là, est-ce que c'est plutôt un cadeau? Parce que l'ambiance est positive, on a un peu le sentiment d'être en bonne position. Ou est-ce que, justement, c'est pas un cadeau? Parce que ça laisse davantage le temps de se monter le bourrichon, entre guillemets.
Pour moi, c'est un cadeau, parce que bon, ça fait 5 ans qu'on est en Ligue 2, ça fait 5 ans qu'on espère avoir un si beau classement, donc il n'y a que du positif.
C'est vrai qu'être à ce stade-là de la compétition, donc à la veille de la 30e journée, et d'être 5e pour Rodez, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'épopée Ligue 2 depuis 5 ans.
C'est ça, donc il faut en tirer que du positif, les mecs ont la banane, ça nous permet de bien bosser, leur rajouter un peu un travail physique à droite à gauche ou une prévention à droite à gauche. Si on aurait été 16e, ils ne l'auraient pas forcément pris de la même manière. Donc,
La récupération, justement, quand on est 5e, elle est différente que si on joue la relégation?
Alors, il y a des études qui montrent que plus tu es mieux classé, plus tu récupères vite, moins tu as de blessés. Après, des fois c'est vrai, des fois c'est...
Tu es d'accord avec le constat ou pas?
C'est faux. Plus ou moins, ouais. Plus ou moins.
Ouais, c'est vrai que c'est toujours attitude,
plus facile de récupérer quand t'as gagné 3-0 que quand t'as pris une déroute.
Puis c'est plus facile de se remettre au goût du travail?
Ça dépend des joueurs. Voilà. Il y a des joueurs, tu perds, un jour après, ils sont sur le terrain en train de mettre des tacles partout parce qu'ils ont
une vraie
compétition. Ouais. Et puis, voilà, c'est vraiment individuel, ça.
On sait que Didier Santini a, en tout cas... insister sur le fait que ces 9 dernières journées, il faudrait les jouer. Alors, jouer les matchs les uns après les autres, c'est le cliché, hein, mais ça semble s'appliquer plus que jamais à la position dans laquelle est Rodez. Et du coup, est-ce que le challenge numéro 1 de cette fin de saison, il va surtout être mental, justement? Pas aller trop vite.
Ça, je te laisse répondre.
Didier avait un discours en début de saison.
Qu'on connaîtra, nous, à la fin de la saison.
Que vous connaîtrez.
Ou pas, peut-être.
Et il ne change pas. La manière dont, moi, j'ai abordé la saison dans le travail que je voulais mettre en place, je ne vais pas le changer maintenant. Je ne vais pas changer parce qu'on est cinquième. Ça serait la meilleure façon de se planter. Alors, je ne dis pas qu'on va rester cinquième ou qu'on va aller plus haut. Hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais,
être fidèle à ses valeurs, c'est un peu l'idée?
À la manière dont on veut travailler, à ce qu'on fait, parce qu'on croit à ce qu'on fait. Si on change... C'est la meilleure manière de se tromper. Il faut améliorer ce qu'on fait, mais il ne faut pas changer ce qu'on fait.
Voilà. Ouais. Et donc ça sera un challenge, ou en tout cas une chose à surveiller, dire attention, on ne bouge pas de notre ligne de conduite. Hein.
Mais je pense que les joueurs, ils l'ont compris il y a quelques semaines, en fait, ça.
Ouais.
Parce que, oui, on joue mieux, je pense. Oui, on a progressé. Des fois, je pense qu'ils aimeraient faire d'autres choses. Mais ils restent très pragmatiques aujourd'hui. Mmh. Voilà. Parce qu'ils ont compris. Le match de Laval, par exemple, a été.
Aller ou retour, ou les deux?
Comment?
Retour.
Le retour, ça a été une vraie démonstration. Je pense que ça a ouvert les yeux au groupe. Mmh. Parce que ce match-là, on doit le gagner. Mmh. Mais on le perd parce qu'eux, ils sont restés dans leurs principes.
Jusqu'à la dernière seconde.
Et que s'ils sont là, Laval, c'est parce qu'ils ne dérogent pas à ce qu'ils font. Quoi qu'il se passe dans les scénarios de match, ils ne changent pas. Et je crois que les joueurs ont eu la démonstration de ça.
Laval 4e, d'ailleurs, au moment où on se parle.
Oui, mais ils ont eu cette démonstration. Et aujourd'hui, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Et c'est... Alors, il ne faut pas en sortir. Après...
On verra ce que ça donne à la fin de la saison.
Exactement.
Effectivement.
Dernière question un peu provoque pour tous les deux, avant de s'intéresser à Troyes, le futur adversaire de Rodez. Jouer les barrages? Oui, non? En un mot pour vous, Thomas? Vous signez?
Non, je signe pas parce que je veux monter directement. Non.
c'est osé. Il faut faire partie des deux pour monter directement, on rappelle.
Cette victoire, il faudrait sur 9.
Ouais, ça permettrait de moins avoir à prolonger la saison physiquement, ce serait plus facile à gérer.
Ouais, il faut que je parte en vacances vite. J'ai un baptême de ma fille à préparer. Donc
Prendre un souci d'organisation, c'est mieux de monter directement. Voilà.
comme certaines grosses équipes de Ligue 2, ou de gros budgets de Ligue 2, on a le droit de briller. Voilà, et moi, c'est ce que je vais dire aux joueurs samedi. On a le droit de briller. Voilà. On a le droit autant que les autres. Mais il faut qu'on reste dans ce qu'on sait faire.
C'est pas parce que l'on fait partie des seules équipes, entre guillemets, à ne pas avoir connu la Ligue 1 qu'on n'a pas le droit d'essayer éventuellement de toucher du doigt ce rêve.
Pour l'instant, on est cinquième. Pardon. Donc déjà, continuons là-dessus et puis on verra à la fin où on en est. Quoi.
Il reste 9 matchs. Et le prochain, c'est ce samedi face à 3 pour la reprise du championnat. Un beau déplacement pour Rodez, direction Grand Est, pour y affronter le 15e de Ligue 2, qui n'est pas dans une posture favorable. Hein. Juste devant la ligne de flottaison, la 16e place qui précède les futurs relégués de la 17e à la 20e place. 3, 35 points au compteur, 2 de plus que Concarneau, premier relégable. Série de 6 matchs sans défaite pour Rodez, série de 3 matchs sans défaite pour 3. Côté joueur, le gardien de 3 qui peut nous rappeler quelques souvenirs et qui avait coté la victoire au sien après un long ballon de Lucas Boadès et une reprise de Kylian Corredor, puisque erreur de prise de balle de la part de Nicolas Lemaître. Il ne sera pas de la partie car il a été opéré de la hanche droite et il va entamer un parcours de rééducation. Normalement, il sera de retour en mai prochain. Ça sera sûrement le gardien turc Alemdar qui est prêté par le Stade Rennais qui sera dans les buts de 3. Autre blessé, Nicolas de Préville, l'attaquant expérimenté, Tierno Baldé, le latéral droit ou encore Abdoulaye Kanté, le milieu relayeur. Par contre, du côté des forces en présence, Simon Elizor, le joueur prêté par Metz, qui a connu notamment une belle saison l'année dernière en Ligue 2 BKT, qui était grimpé en Ligue 1, qui retrouve un challenge attrayant pour lui avec cette équipe de 3 en Ligue 2, Youssouf Nchangama ou encore Renaud Ripard, qui seront normalement de la partie des beaux noms, évidemment, des noms qui connaissent à la fois la Ligue 1 et parfois la Ligue 2. Rendez-vous en tout cas sur le terrain ce samedi au Stade de l'Aube pour y affronter 3 lors de la 30e journée de Ligue 2 BKT. Ça sera à vivre évidemment dans l'intégrale sans erreur.
Ouais. Un petit mot, tiens, peut-être sur la façon dont on prépare l'adversaire, l'identité de l'adversaire. Vous avez dit que vous en parliez, vous, avec le coach, dès le dimanche précédent, donc quasiment 8 jours en avance. Et après, dans l'organisation de la semaine, l'identité de l'équipe, la façon dont on s'adapte à son jeu, ou en tout cas, on l'incorpore à l'entraînement, ça arrive tôt.
Moi, je commence à regarder l'adversaire le vendredi.
Précédent ?
Ouais.
Ah ouais.
Ouais. Donc, le match du week-end n'est pas encore passé ?
Non.
Ah, et vous ne mélangez pas les... Non ? Les pinceaux ?
Non. Non.
Ça ne pollue pas le cerveau, comme on disait tout à l'heure, non ?
Quand il y a 3 matchs en semaine, c'est plus compliqué.
Ouais. On va dire que le travail est déjà effectué pour le match du week-end.
Oui.
Et donc, du coup, ça, la veille donc, de la rencontre, on va prendre le cas là de la 30e journée, si ça se serait passé la semaine dernière... Ben, on va dire que la préparation pour le 29e est passée.
On va prendre là. On est mercredi, là, mardi.
On est mardi ouais. Soir.
Vendredi, je vais regarder QRM. Dans l'avion, samedi, je vais regarder un match de QRM. Dimanche, je vais en regarder au moins 2.
Ouais. Faut prendre un peu d'avance, quoi.
Ouais, parce qu'il faut que le lundi, mon montage soit quasiment calé.
Eh bien, d'accord.
QRM, on rappelle, ça sera le prochain adversaire du RAF, le 6 avril prochain.
Ouais.
À Paul Ligny.
Et vous n'avez plus de session d'entraînement liée à l'ESTAC à ce moment-là ?
Non.
Voilà, c'est ça. Non. Donc vous ne risquez pas de vous mélanger ?
Normalement, non. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé.
Ouais.
Alors si ça arrive, c'est de la faute de Jean-Charles Vierlejeu parce qu'il vous a posé la question.
Non, les semaines à 3 matchs sont plus compliquées. Ouais.
Ouais. Ça va arriver d'ailleurs, avec notamment le Paris FC qui va se présenter en milieu de semaine à Paul Ligny. Ouais. Date importante pour le club. D'ailleurs, on a vu la communication à l'occasion d'un anniversaire un peu symbolique pour ce 23 avril. C'est vrai que c'est des semaines à 3 jours, c'est compliqué à préparer.
Ouais, je pense que là, vous pourrez appeler Benjamin Guillermin, celui qui s'occupe de la com. Je ne sais pas où il est d'ailleurs, il devait être là, il n'est pas là. Et peut-être qu'il pourra vous en parler à ce moment-là.
Non, on aura l'occasion d'en reparler. Ça arrive évidemment dans le mois prochain, on aura l'occasion d'en reparler.
Juste pour finir sur le terrain, du coup, l'identité de l'adversaire, elle arrive quand ? Alors vous commencez à le préparer la semaine d'avant et après, dans les séances, tel aspect de l'adversaire, ça arrive dès le mardi ou plus tard ?
J'aime bien travailler sur nous, en fait.
Mm-hmm.
Comment on va les mettre en difficulté ? Je préfère. Mm. Même si, encore une fois, on est considéré comme que Rodez, je préfère qu'on avance sur nous. Qu'on essaie déjà de maîtriser ce qu'on peut maîtriser. Voilà. Après, le mercredi, oui, demain matin, par exemple, on va aborder des choses par rapport à 3. Mais c'est, on va faire ce qu'on aimerait faire.
Oui, c'est mettre en valeur telle ou telle qualité de Rodez qui
par
en
rapport
mettra
à
le plus
mais par rapport à ce qu'ils font.
Ouais. Okay.
Avant de vous laisser, Thomas Frette, Aymeric Darbelay, on a senti allez, on va dire une pointe de critique avec le que Rodez. Est-ce que vous trouvez qu'on manque de considération dans ce championnat de Ligue 2?
Oui. Oui, oui. Même si on est beaucoup mieux vu cette saison. Voilà. Après, ce que
c'est
je veux dire, c'est que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 5 ans de suite, 5 saisons de suite qu'on est en Ligue 2. Mmh. On a un des plus petits budgets. Donc oui, on sait qu'on n'est pas la meilleure équipe. Mais il ne faut pas que ça soit péjoratif de le savoir, de l'entendre et de le savoir. Voilà. Parce que oui, on n'est que Rodez. On ne peut pas se comparer à Saint-Étienne, à Auxerre, à Angers. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on est que Rodez, qu'on n'a qu'un petit budget, qu'un petit entraîneur adjoint, qu'un petit préparateur physique, par la taille, qu'on n'est pas une équipe qui peut faire des choses. Mmh. Voilà. Et c'est pas parce que les planètes sont bien alignées, hein. C'est qu'on travaille aussi bien que les autres, et que... voilà. Quand tout le monde est sur le même projet, n'en sort pas, ben on est capable de faire des résultats, parce qu'on ne travaille pas moins bien que les autres.
Juste pour éclairer, par rapport à la question du budget, les Girondins de Bordeaux, par exemple, à peu près, c'est 42 millions de budget pour la saison 2023-2024. Angers vient juste derrière avec 33, Saint-Etienne avec 27, Rodez est juste devant cette ligne de flottaison, 16e, avec 8 millions de budget. Alors c'est théorique, évidemment, on n'a pas les chiffres officiels, mais c'est ce qui était sorti notamment sur le site 20minutes.fr. Avec derrière Annecy, Quevilly, Pau FC et Concarneau, qui ont relativement les mêmes budgets, 8 à 6 millions pour ces clubs-là.
Mais après, enfin, c'est ma quatrième saison, donc j'ai eu le privilège et la chance de voir une évolution. Alors Thomas, qui est quasiment né avec le club, pourrait en dire plus, mais l'histoire du staff qui s'élargit dans les bureaux, la com, qui a de plus en plus de monde, c'est une évolution logique. Mmh. Elle prend du temps, mais le club n'est pas là depuis longtemps. Donc ça aussi, c'est des investissements, ça coûte un petit peu d'argent, et que ça va prendre du temps. On va avoir un stade magnifique.
À horizon 2025.
Oui, déjà dès le début de la saison.
Déjà l'an prochain, quand il y aura...
Il sera fini à l'horizon 2025.
Oui, mais quand il y aura le U l'an prochain, déjà...
Le retour de la tribune principale, ce que vous appelez le U.
Oui, parce que moi, j'ai eu la chance... de pouvoir aller voir la tribune la semaine dernière. Donc, c'est magnifique. Enfin, c'est l'autre côté, mais c'est magnifique. Et en fait, j'ai appris que on n'écoutait pas les gens. J'étais avec quelqu'un qui est en loge, qui a une loge, qui m'a dit, ce qui est terrible, c'est qu'on n'écoute pas le public.
À cause des baies vitrées ?
Non, c'est qu'eux, ils sont en hauteur.
Ah, ils n'ont pas le ressenti de l'ambiance.
Ouais. Okay. Alors que nous, sur le banc, je peux vous assurer que la fin de match contre Grenoble, c'était incroyable. Sincèrement, hein. Nous, les gens d'en face, la tribune, on reçoit en fait le bruit.
Et oui, parce que vous êtes positionné pile en face de la tribune.
Et donc, quand il y aura ce U, en fait, ça va se répondre. Et là, on va vraiment se rendre compte du stade qu'on va avoir, quoi. Ça va être vraiment bien. Ça va faire grandir le club.
Ouais. Ce U, il est prévu à juillet, à horizon juillet 2024. Et le retour complet du stade à horizon janvier 2025. Voilà pour les avancées. Alors, je ne suis pas expert en travaux, hein, et ce n'est pas moi qui les réalise, mais c'est ce qui avait été annoncé en tout cas. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Thomas Frette, Aymeric Darbelé, d'avoir été avec nous, préparateur physique et entraîneur adjoint de cette équipe du Rodez Aveyron Football.
Merci pour cette longue discussion.
Longue discussion, effectivement.
Enrichissante.
Ouais, et puis, n'hésitez pas à convoquer Benjamin Guillermin.
On le fera.
Qui pourra vous parler de l'anniversaire, de toutes les manifestations qui vont être... mise en place, comme ça au moins il aura une occasion de discuter et puis de venir, surtout au rendez-vous qu'il donne.
Bon, on aura le temps de l'inviter évidemment. D'ici la réception du Paris FC, il y aura eu la réception de Auxerre, le déplacement à Caen, la réception de Quevilly et donc ce week-end le déplacement sur la pelouse de Troyes. Merci à vous d'avoir été avec nous et bonne soirée.
Merci, au revoir.
Totem, le club sang et or.